Jésus est vivant, hein. Eh oui. Et en fait, vous pouvez même le redire, hein. Jésus est vivant encore. C'est tellement évident, mais il faut le redire, non, faut le redire. Et ce matin, de par le monde entier, ben, des cloches, elles ont sonné, elles ont carillonné. À Paris, on ne les entend pas trop. Hein, mais, parce qu'en fait, dans beaucoup de lieux, et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Pâque à la fois pour les Juifs, pour les orthodoxes, hein, et aussi pour les chrétiens catholiques et protestants. En fait, hein, ça tombe la même année. Hein, enfin, je veux dire, pas même année, aux mêmes dates. Donc Jésus ressuscité, Jésus est vivant, alléluia, hein, d'accord. Et on va faire la fête dans toutes les familles, c'est normal, hein. On va déguster le fameux chocolat, par exemple, il s'en vend 15 000 tonnes par an en France, 15 000 tonnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aberrant, bon, enfin. Et peut-être même, eh bien, on va, hein, dans certaines familles, on va faire la chasse aux œufs. Vous savez, on aime bien cacher les œufs et les petits-enfants, hein, vont les chercher, bon, c'est des traditions, vous savez, bon, c'est pas méchant. Mais c'est vrai que, eh bien, je crois que l'événement vaut la peine quand même d'être fêté. D'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu, ben, dans sa sagesse, voyez, hein, la Pâque, vous savez que la Pâque, c'était au départ Jésus ressuscité au moment où les Juifs ont quitté l'Égypte, hein, donc au mois de Nissan, et ça se situe toujours en mars-avril, et c'est la période où la nature, qui était morte, reprend vie en plus. Déjà, un incroyant est quand même étonné par ce mystère de la vie là, qui revient vraiment donc au moment du printemps. Et c'est à ce moment-là que Jésus est sorti du tombeau, effectivement. Et aussi, quand on pense que Dieu, dans sa sagesse, n'est pas venu réaliser son plan de salut à une période de nos jours où il y a les médias, où il y a l'Internet, de nos jours où il y a toutes les moyens de communication, il est venu à une période où ça n'existait pas. Parce qu'imaginez que ça existe de nos jours, que ce soit aujourd'hui que Jésus soit ressuscité, vous entendriez donc aux informations, un scoop sur les téléscripteurs, on nous annonce une nouvelle en provenance de Jérusalem. Ce matin, des femmes sont allées au tombeau et elles ont été surprises, elles allaient pour embaumer le corps d'un rabbin nommé Jésus qui était décédé quelques jours, qui est enterré le jeudi soir, vendredi, pardon. Et étonnées, le tombeau était vide, elles proclament même qu'il est vivant. Alors tout de suite on imagine, on envoie des reporters là, tout de suite à Jérusalem, on interview bien sûr les femmes, les disciples, on interview les soldats qui gardaient le tombeau, enfin, on peut tout imaginer, et bien sûr, et les journaux le lendemain, donc on titre à la une des titres spectaculaires du genre, vous voyez, bon, mystère du tombeau vide, fait réel, supercherie, vous voyez, le cadavre mystérieusement disparu, où a-t-il été volé, vous voyez, Jésus est-il vivant, comme le prétendent ses disciples, la mort serait-elle enfin vécue, a-t-on percé le secret d'une vie après la vie, enfin, on imagine tous ces titres qui feraient vendre les journaux. Et bien sûr, les reporters spéciaux envoyés sur place n'auraient, de la part des témoins, aucune preuve. Il n'y aurait pas de preuve. Hein. On ne peut pas le prouver. Hein. Jésus ne se serait pas montré, certainement pas aux reporters. Et ça serait comme beaucoup d'affaires. Hein. Très vite, la campagne présidentielle reprend le dessus. Et puis, ben, il n'y a pas de preuve. Ça fait partie des affaires non élucidées. On passe à autre chose. Alors que ça devrait bouleverser le monde entier, c'est un peu comme effectivement, un peu vite dans les diapos là, voilà, c'est un peu comme, rappelez-vous, les astronautes là, quand ils ont débarqué le 21 juillet 69, bientôt 40 ans. C'est vrai que ça a fait un peu de bruit, bon, on en a parlé, mais finalement, qu'est-ce que ça a changé pour l'humanité? Pas grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Et ce qui est terrible, c'est que le monde a vite fait de s'habituer à ce qui est inouï, incroyable, du jamais vu. Eh bien, on s'habitue quand même, voyez. Hein? Et c'est vrai que si maintenant vous abordez quelqu'un, vous lui parlez de la résurrection, hein, et c'est là que... Eh bien, effectivement, c'est un mot, ça devrait provoquer un électrochoc. Hein? À tous les sens du mot, résurrection, c'est un mot à réveiller les morts. Hein? Donc, et à secouer les vivants. Eh bien, malheureusement, les gens de la rue n'y croient pas trop. On parle d'une vie après la vie, bon, on verra bien. Bon, s'il y en a une, tant mieux, ben, à mon avis, je pense que ça va être bien. Et pour l'instant, je profite de la vie, on ne veut pas y penser. Bon. Et la raison humaine a effectivement du mal à concevoir ce que peut être un corps ressuscité, comme le corps de Jésus, un corps glorieux, un corps incorruptible. On a du mal à le réaliser. Ça dépasse l'imagination. Et rappelez-vous comment ont réagi les auditeurs de Paul lorsque, à Athènes, il s'adresse à des philosophes, épicuriens, stoïciens, et il leur dit « Dieu qui a fait le monde et ceux qui s'y trouvent, Dieu appelle les hommes à se repentir, et c'est lui qui va juger le monde par celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus. » Et il nous dit en acte 17, 32 « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, Les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et oui, pour ces gens qui raisonnaient avec leur intelligence, évidemment, hein, c'était trop fort pour eux. Et Paul écrira, donc, en 1 Corinthiens 15, 17-19, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Donc, le langage de Paul est un peu plus clair, c'est-à-dire que si Christ n'est pas ressuscité, il le dit, notre foi est vaine. Ça veut dire que eh bien, nos péchés ne sont pas pardonnés, on est toujours sous le châtiment de Dieu, et ça veut dire qu'il n'y a pas de vie après cette mort. En fait, on est, irrémédiablement perdu. Mais si Jésus est ressuscité, et on sait qu'il est ressuscité, pour nous, ben c'est, eh ben ça change tout. Ça change tout. Effectivement, hein, la vie chrétienne, elle est basée déjà sur le fait historique de la résurrection de Jésus. Vous savez que la prédication des apôtres, c'était Jésus mort, ressuscité. C'était essentiellement ce qu'ils annonçaient. Et ça dérangeait beaucoup d'ailleurs hein, les chefs religieux. Il fallait surtout pas parler que Jésus était vivant, bien sûr. Et vous savez, si on ne prend pas la résurrection, on peut pas être chrétien. C'est vraiment la base. Il y a malheureusement des théologiens libéraux eh bien, qui mettent en doute la résurrection de Jésus. Pour eux, c'est une réalité abstraite. Et pourtant, la résurrection, c'est ce qui différencie effectivement la foi chrétienne de toutes les autres religions. Et parce que pour deux raisons. D'une part, c'est la preuve évidente de la véracité de la Bible, parce que Dieu a annoncé par les prophètes depuis longtemps que Jésus allait mourir et ressusciter. Jésus lui-même avait annoncé qu'il mourrait et qu'il ressusciterait, donc Jésus l'a dit. Donc, et la parole est confirmée, le fait s'est avéré donc se produire. Et d'autre part, je dirais que c'est surtout Jésus authentifie sa divinité, son pouvoir sur la mort. Parce qu'en fait, tous les pionniers des autres religions ou mouvements philosophiques, eh bien, ils sont tous morts, en fait. Et ils sont tous dans leur tombe. Mais le christianisme a un chef qui est vivant. Eh oui. Mais attention, il a été réellement mort. Et c'est là que, je voyais, dans le programme de la semaine prochaine, je crois, à la télévision, ils vont passer l'évangile de Barnabé. Ah bon, vous ne connaissez pas. J'ai été voir, rapidement. C'est un évangile qui remonte au 14e siècle, je crois, écrit par des anonymes, bien sûr, d'influence musulmane, aussi. Et effectivement, alors Jésus, dans cet évangile, parle de Mahomet, qui va venir. Et bien sûr, Jésus, selon la tradition musulmane, Jésus a été mis en croix, mais Dieu a mis quelqu'un d'autre à sa place. Donc Jésus n'est pas mort sur la croix. Attention! Alors, on va diffuser ça à tout le monde, on va lire l'évangile de Barnabé, une fois de plus, on fait passer le message, Jésus est vivant, oui, mais Jésus, il est mort. Eh oui, c'est quand même important. Donc, et le tombeau est vide, donc souvent on représente le christianisme, c'est la croix, le symbole du christianisme, on pourrait représenter une tombe vide, ça serait autant, et sinon plus parlant encore. Enfin. Donc Jésus est le seul et premier homme à avoir affronté victorieusement la mort, celle qu'on appelle la reine des épouvantements, la mort qui fait peur à tout le monde, eh oui, tout le monde a peur de mourir. Et il est écrit, c'est Paul qui dit « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Donc c'est une nouvelle qui devrait secouer toute l'humanité, la faire réagir. Parce que ça change tout, ça change toute la vie et la vie de tout le monde. Et pourquoi désormais, justement, les diapos vont plus vite que moi, hein, c'est pas grave. Mais pourquoi, vous voyez, il existe un passage maintenant entre cette vie et la vie donc, dans l'au-delà, une vie éternelle de bonheur, et pourquoi il y a si peu de gens, effectivement, qui prennent pas, qui prennent pas ce passage, eh bien, on se pose la question. Mais notez que la résurrection, c'est plus qu'un mémorial. On fait souvent des fêtes pour rappeler un événement passé. Et je veux insister sur le fait que Pâques, eh bien, c'est la résurrection, mais un événement qui est présent. C'est-à-dire la résurrection de Jésus a libéré une puissance qui ne cesse d'agir. Et ça, c'est important. Parce que, voilà, si la mer Rouge, qui a laissé passer donc, les Hébreux libérés d'Égypte, et ensuite elle s'est ouverte, mais elle s'est refermée. Mais si le tombeau de Jésus s'est ouvert, il ne s'est pas refermé. Le tombeau est toujours ouvert, et cette puissance qui a fait sortir Jésus de la mort, elle est toujours à l'œuvre dans nos vies. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Paul précise en Galates 3:10, de connaître Christ en expérimentant la puissance de sa résurrection et de devenir semblable à lui jusque dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Dieu veut nous faire expérimenter la puissance de la résurrection de Dieu. Et on va voir comment. Donc on va revenir à l'événement tel qu'il est raconté dans les évangiles. Et je vous invite à lire ensemble le passage qui se trouve en Jean, au chapitre 20. On va lire des versets 1 à 10. Jean 20, 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et il leur dit « Ils ont levé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. J'ose espérer qu'ils ont été rassurés, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, pardon, et l'annoncer aux autres. C'est pas mis, mais la suite nous laisse à penser qu'ils l'ont fait, bien sûr. Alors, il vit et il crut, verset 8. De qui s'agit-il? Le « il ». Il s'agit de Jean, celui qui courait plus vite. Mais il est arrêté le premier, il a laissé rentrer Pierre, et ensuite, il est rentré. Et qu'est-ce qu'il a vu? À vrai dire, il n'a pas vu grand-chose, parce que le tombeau était vide. La pierre, déjà, avait été mise sur le côté, donc déplacée. Et le tombeau était vide, et il y avait les bandelettes par terre, et le linge qui entourait donc la tête de Jésus était posé à part. C'est tout ce qu'il a vu, mais ça suffit pour qu'en un instant, ça produise un déclic. Et ici, disons qu'il le savait pourtant. Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Bon. Mais, on l'a lu, il ne l'avait pas encore compris. C'est-à-dire que, des fois, on sait des choses. On l'a entendu. Pourtant, bien des fois, ils avaient compris. Et pourtant, le tombeau vide, il a fallu que de voir pour qu'ils comprennent que Jésus était vraiment ressuscité. C'est une chose de voir, une chose de savoir. Parce que souvent, on lit la parole de Dieu, on sait que c'est vrai. On est convaincu que c'est vrai. Puis mise en situation, difficulté, eh bien, vous savez, c'est pas évident. On le sait, mais on le fait pas pour autant. Non. Donc une chose de savoir, une chose également de le vivre. Et vous savez, nous avons entendu, nous, la parole de Dieu. Si nous sommes là, c'est qu'on a été touchés par la parole de Dieu. Eh bien, quelque part, vous allez dire, ça m'a suffi, moi. Ça m'a suffi, et pourtant, je ne suis pas sûr qu'il n'y a que la parole qui vous ait convaincu. Il y a sûrement l'exemple d'avoir vu des frères et sœurs, enfin des chrétiens, qui vivaient leur foi. Vous avez vu la joie qui rayonnait d'eux, vous avez vu leur amour, vous avez vu peut-être quelque chose qui n'existait pas chez les autres. Et ça, c'est un signe qui vous a permis de croire. Vous savez, la vie de Jésus ressuscité en nous doit permettre, je dirais, ça doit être comme un signe qui permette de croire. Parce que Jésus dira... heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. Vous savez que Thomas, il est incrédule quand les autres ont dit on a vu Jésus. Ne croyez pas. On le fait passer pour un incrédule. Pardon ?
C'est l'inverse. Ils ont cru sans avoir vu.
Non, excusez-moi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Excusez-moi. C'est bien, vous écoutez. Merci Seigneur. Bon. Non, j'ai pas fait exprès. Mais. C'est noté. Ça arrive. C'est l'émotion, ça. Donc, oui. Mais Thomas, les peuples, en fait, il avait raison de demander des signes. Les autres avaient vu Jésus. Alors, il était fier de dire on a vu Jésus. Ben, lui, écoutez, il l'a pas vu. Il était pas là jour-là. Bon. Et des fois, moi, je dis qu'on pose la question, est-ce qu'on a besoin de signes pour croire? C'est pour ça que je vous dis, quelque part, oui. Les signes sont là. Jésus s'est montré pendant 40 jours à ses disciples, vous savez. Et Dieu souvent donne des signes quand même pour accréditer sa parole. La parole, on croit parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais il y a les signes qui sont là aussi. Il ne faut pas oublier quand même. Cette puissance de vie qui est en nous doit être un signe pour les autres qui viennent à Jésus, à la croix. Alors, que lisent les gens dans votre cœur ? Il faut se poser la question. Est-ce qu'ils se trouvent dans un cœur fermé ? Comme un tombeau, qu'une grosse pierre, vous savez, interdit l'entrée. Est-ce qu'ils sont devant un cœur qui est desséché, qui est tari, il n'y a pas de vie, et même tellement durci qu'il s'est transformé parfois en un cœur de pierre, ou tellement ficelé qu'il est comme un peu momifié. Bon. Ou alors, est-ce qu'ils vont voir dans ce cœur couler comme une source d'eau vive, qui va vraiment rafraîchir, qui va être l'expression d'une vie, qui va donner le fruit, ce fruit de l'esprit, vous savez. Hein, Jésus dira, pour celui qui croirait en lui, des fleuves d'eau vive couleraient de son sein. Donc, est-ce qu'il y a dans nos cœurs cette vie qui jaillit en permanence? Parce que, je dis, on doit manifester cette vie de Jésus ressuscité. Donc, revenons maintenant à ce qu'a vu l'apôtre Jean, et on va insister sur deux détails. Le premier va être au verset 1, la pierre était ôtée du sépulcre, et au verset 5, en se penchant, il vit les linges funéraires par terre. Bon. Revenons déjà, le premier détail, c'est la pierre était ôtée du sépulcre. Bon. Cette pierre a été mise là, comme on fermait les tombes, bien sûr, les femmes se demandaient comment elles allaient faire pour dégager la pierre qui était très lourde. Et surprise en arrivant, effectivement, la pierre avait été roulée. Et c'est là qu'on voit que, pourtant, il y avait des soldats, il y avait des scellés. Mais ni la pierre, ni les soldats, ni personne n'a pu empêcher le prince de la vie de sortir de ce tombeau. Et Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et il a affirmé son triomphe sur la mort. Ni les ténèbres, ni les liens n'avaient pu le retenir. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, bien sûr. Parce qu'en fait, on a accepté un jour de mourir avec Jésus, qui est mort sur la place de notre croix. On l'a rappelé ce matin en prenant la Sainte Cène, encore, c'est important de ne pas oublier. Jésus nous a libérés de notre vaine manière de vivre. Romains 6, 4 nous dit « Hérité de nos pères et de ses convoitises pour que nous marchions en nouveauté de vie. » Et c'est là, vous voyez, j'ai représenté l'image du baptême, parce que c'est le sens du baptême par immersion. On se plonge dans l'eau pour mourir avec Jésus, et vous savez qu'on sort de l'eau, c'est pour témoigner qu'on a cette vie de Jésus ressuscité en nous. 1 Pierre 1, 3 nous dit « Béni soit Dieu, Père de ton Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection en Jésus-Christ. » Éphésiens 2, 4 nous rappelle que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec Jésus, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes spirituellement ressuscité avec Jésus, assis dans les lieux célestes. Et je vous redis, Pâques, c'était le jour où on célébrait la libération d'Égypte, la liberté, une vie nouvelle pour le peuple. Et c'est pas étonnant que la résurrection soit située aussi à ce moment-là. Puis, il y aurait tout le symbolisme de l'agneau, enfin, on a chanté l'agneau, le sang qui a épargné de la mort quand l'ange est passé, enfin, tout ça. Donc il y a beaucoup de symbolisme derrière, mais il y a une réalité aussi, c'est que donc la vie a éclaté en Jésus, et cette vie maintenant, il veut la communiquer à tous ceux qui croient en ce qu'il a fait. Seulement, cette puissance donc, de résurrection, vous voyez, elle va enlever la pierre qui fait de notre cœur un tombeau, cette pierre c'est la pierre du péché en fait. 1 Jean 3,5, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Donc voilà, la pierre qui ferme notre tombeau, c'est le péché. Jésus est venu ôter la pierre pour que le cœur soit un cœur vivant qui vive pour Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu voulait. Il avait déjà annoncé, vous connaissez tous ce passage d'Ézéchiel 37, Dieu annonce donc une résurrection pour son peuple, mais en même temps, il le symbolise par cette vallée des ossements face à laquelle se trouve le prophète. Et Dieu invite le prophète donc à parler sur ces ossements, sur Ézéchiel 37, on va relire d'ailleurs quelques versets. Vous prenez avec moi peut-être Ézéchiel 37. On va lire des versets 4 à 10. Il me dit, donc c'est l'Éternel, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, se fit un mouvement. et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point de vie en eux. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc, l'esprit a redonné vie à ces ossements desséchés. Et spirituellement, donc, on sait que la nouvelle naissance, hein, redonne vie, donc, hein, à nous qui étions morts dans nos péchés, et fait naître, fait battre en nous un cœur pour Dieu, un cœur rempli d'amour, de joie, hein, de reconnaissance, etc. Donc c'est le miracle de la nouvelle naissance. Le cœur de Pierre a volé en éclats. De même aussi, je dirais que volé en éclats, si le fameux mythe de Sisyphe, vous avez peut-être entendu parler, le mythe de Sisyphe aux enfers, vous savez, hein, eh bien, cet homme est condamné à rouler un rocher énorme en haut d'une montagne. Quand il arrive en haut, finalement, il n'en peut plus. Hein, la pierre redégringole, il s'en tombe en bas, écrasé par la pierre. Donc sa vie devient un enfer, en fait, quelque part. Et c'est, bon, c'est un mythe, c'est un symbole. Mais ça représente ce qu'est l'homme qui essaie de porter le poids de son péché, de sortir de toutes les conséquences de son péché. Tout seul, il ne peut pas. Hein, tout seul, il ne peut pas. Merci Jésus d'être venu, hein, parce que depuis, on n'est pas condamné à être écrasé par le poids de notre péché. Et surtout, on n'est pas condamné non plus, eh bien, à vivre dans les ténèbres. Et là, j'ai illustré par ce, vous savez, ce possédé qui vivait dans, de Gadara, qui vivait dans les, parmi les tombes, dans les sépulcres. Il était possédé d'esprit. Et Jésus va venir va le libérer. Vous pourrez relire en Marc 5. Oui. Donc Jésus a libéré cet homme. Jésus a libéré notre péché. Et de même qu'il a libéré Lazare du tombeau. Et là, je vais vous rappeler quand même ce que Jésus aussi a fait face à ce tombeau de Lazare. Vous savez que Jésus est informé que Lazare était mourant, enfin il était très malade du moins, et il est avec ses disciples, il ne s'est pas dérangé, et puis quelques jours après, donc, hein, on est venu lui dire qu'il était mort, donc, et quand il arrivait, bien sûr les sœurs de Lazare étaient mécontents, un peu fâchés contre Jésus, parce qu'il ne s'était pas dérangé pour le guérir. Et donc elles vont dire à Jésus, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Bon. C'est vrai qu'elles expriment leur déception, mais Jésus savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare, hein, et que ça allait être pour la gloire de Dieu. C'est vrai que les évangiles disent Jésus pleura. Et on a l'habitude, et c'est vrai que Jésus a dû pleurer de, quand même de compassion, de tristesse, parce que Lazare était son ami, mais il savait quand même qu'il allait le ramener à la vie. Donc, quelque part, ce n'est pas la seule motivation pour laquelle Jésus a pleuré. Moi, je suis convaincu que Jésus a pleuré parce qu'il avait autour de lui des gens, malheureusement, l'incrédulité avait fait qu'ils avaient enterré un peu leur confiance en lui. Même Marthe et Marie et tous ceux qui étaient là, eh bien, c'est leur confiance en Jésus qui est enterrée. Et cette question, donc, Jésus n'aura qu'un mot, il dira, où l'avez-vous mis? Et cette question, Jésus la pose à chacun de nous ce matin. Jésus nous dit, où l'avez-vous mis? Quoi? Eh bien, votre confiance en moi. Où avez-vous mis cette graine, je dirais, de foi qui a été déposée dans votre cœur? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Où avez-vous mis cet esprit qui habite en vous? Est-ce qu'il est à l'œuvre? Parce que reconnaissons-le, souvent on va enterrer notre confiance en Dieu. On a prié Dieu, on a demandé quelque chose, que Dieu intervienne. Et puis Dieu, il tarde à répondre. Et puis, eh ben, on n'est pas patient, puis on dit, bon, ben, Dieu, il ne veut pas répondre. On tourne la page, comme si Dieu se désintéressait. Et finalement, on a classé l'affaire. Parce que c'était peut-être pas le temps de Dieu, c'était peut-être pas le moyen dont Dieu voulait intervenir, mais donc notre confiance, elle en prend un coup. Ou alors on a un espoir, un espoir parfois qui vient de Dieu même, mais on voudrait que cet espoir soit réalisé comme nous on voudrait, dans le temps qu'on veut, à la façon dont on veut. Et c'est malheureusement Dieu est souverain, on le laisse pas faire, et du coup, ben, là encore, on est déçu. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs. Ils cheminent avec Jésus qui est ressuscité, hein, et ils disent, ben, nous avions espéré que c'est lui qui rétablirait la royauté en Israël, malheureusement il est mort. Et Jésus était vivant à côté d'eux, oui, ils ne s'en rendaient pas compte. Bon. Donc, et si un espoir est déçu, parce que parfois Dieu répond autrement, hein, ou parfois cet espoir il était humain, ce n'était pas dans le plan de Dieu, eh bien que notre foi ne vacille pas pour autant. Votre espoir est déçu, ben, nourrissez un nouvel espoir qui vient de Dieu et attendez-vous à le voir réaliser. Mais ce n'est pas la foi qui doit être par terre parce qu'un espoir n'a pas été donc récompensé. Bon. Ou alors, est-ce qu'on n'enterre pas parfois aussi des sentiments de rancune et de rancœur? Vous savez, on entend des réflexions désagréables, il y a des gens qui nous blessent, et puis ben, on a du mal à pardonner, et puis donc, et on garde ça enfoui dans notre cœur. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que ça vient de notre chair. Bon, c'est la rancune, ça peut être de l'envie, ça peut être de la jalousie. Et tout ce qui vient de la chair, enterré de la chair, qu'est-ce que ça fait? Ça pourrit, ça sent mauvais. Eh bien, tout ce que vous enterrez provenant de votre nature charnelle en vous, en fait, eh bien, ça va faire de la pourriture, ça va se décomposer, ça va vous empoisonner la vie. Au sens propre du mot. Bon. Et là, je me souviens d'une dame que j'avais soignée. Elle avait des tas de problèmes articulaires, hein, elle avait même plusieurs cancers. Et dès la première fois que je la vois, je parle, et je lui demande si elle avait une fille, elle me dit « Oh, oui, mais ne m'en parlez pas. » « Ah bon ?» « Non, non, elle me dit, ça fait, tenez-vous bien, 40 ans que j'ai plus de contact avec elle. 40 ans, authentique. » Et elle m'explique qu'au décès de son mari, donc cette fille, elle n'avait pas choisi le jour, c'est vrai, mais elle avait besoin de se libérer et elle a reproché à sa mère, effectivement, qui avait fait du favoritisme par rapport à son grand frère. Et cette femme n'avait pas accepté que sa fille réagisse comme ça le jour où son mari est décédé. Au lieu de comprendre, ça l'a tellement vexé, enfin, ça l'a choqué et tout, elle a coupé tous les ponts avec sa fille. Et elle me dit, elle ne me parlait plus de ma fille, en plus, elle me dit. Bon. Et après, elle s'étonnait, cette femme, hein, d'avoir du mal à dormir. Le problème de digestion. Problèmes de santé, elle avait des tas de problèmes, plusieurs cancers. Elle ne comprenait pas que le fait d'avoir enterré sa fille, en fait, dans son esprit, dans son cœur, en fait, c'était comme s'il y avait un cadavre en elle qui lui pourrissait la vie, en fait. Et donc, bon, on peut comprendre qu'elle n'était pas chrétienne, on peut comprendre qu'elle n'est pas pardonnée encore. Bien que. Mais même les chrétiens, parfois. Hein. Ah oui, j'oublie, mais je pardonne. Enfin, je pardonne, mais j'oublie pas. Je pardonne, mais j'oublie pas. Attention. Si vous n'oubliez pas, c'est que vous enterrez quelque chose. Hein. Et ça, c'est pas bon. Un cadavre, Marthe et Marie disent à Jésus, il sent mauvais déjà. Ça fait 4 jours. Il sentait mauvais déjà. Quand on enterre, ça sent pas bon. Et le chrétien régénéré, normalement, il doit exhaler une bonne odeur, hein, l'odeur de la connaissance de Jésus, c'est sûr. Jésus va dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ça veut dire, enlever tout ce qui va empêcher à la vie de s'exprimer. Et ce matin, on doit demander vraiment au Saint-Esprit de nous aider à enlever cette pierre qui peut être sur notre cœur et qui empêche sa vie de se manifester. Hein, il faut sortir, je dirais, les cadavres au sens figuré. Hein. Il ne faut pas les violer les sépultures, bien sûr. Mais tout ce qu'on peut enterrer de notre passé, qu'on enfouit, si vous voulez. S'il faut enterrer quelque chose, il faut l'enfouir en Jésus pour que ça ressuscite. Hein. On a chanté « Je te donne tout », ben, c'est le moment de tout donner à Jésus pour que bien l'œuvre de résurrection redonne vie à tout ça. Donc, vous savez, si on a enterré notre confiance, si on a accumulé des déceptions, on est découragé, on est désespéré, je vais dire, ôtez la pierre de votre cœur. Si vous manquez d'amour, si vous manquez de compassion, si vous avez une haine secrète qui est en vous, un secret qui vous ronge, il dit « ôtez la pierre ». Laissez le Saint-Esprit venir aérer tout ça et puis faire revivre un peu tout ce qui se décompose. Dieu veut faire jaillir la vie dans notre cœur. Vous avez sûrement vu ce film-là, avec Jean de Florette et Manon Desources, c'est tiré d'un roman de Marcel Pagnol, là, qui s'intitule « L'eau des collines ». Et ce film rappelle comment, en fait, je ne vais pas vous raconter l'histoire du film, mais il y a un terrain. Donc, pour être vendu à bas prix, il y avait une source dans le terrain, qui donnait de la valeur au terrain. Mais on avait... donc couler une dalle de béton sur la source. Donc le terrain se trouvait avoir perdu sa valeur. En fait. Et ça, c'est l'illustration de ce que le malin veut faire dans nos cœurs. Nos cœurs, je dirais, doivent produire un peu donc, cette vie, l'esprit, ce fruit d'esprit, mais le malin vient pour que cette vie qui coule comme une source d'eau ne puisse pas jaillir. Donc, et cette pierre, on sait que c'est le péché qui va empêcher la vie de se manifester en nous. Et en parlant de cette pierre de péché, là, je vais quand même vous donner trois exemples concrets, hein, de cette pierre de péché qui peut obstruer notre cœur et empêcher la vie de Dieu de se manifester. La première exemple, c'est, je dirais, c'est la pierre de nos fausses sécurités, vous savez, qu'on met pour nous protéger des tempêtes de la vie. Vous savez, on se fait son petit trou, là, on est on fait notre place dans la société, et puis on va s'abriter derrière eh bien, des excuses, des faux raisonnements, des préjugés, attachement aux idées reçues, vous savez, le goût du confort, un enseignement erroné, mais sans, on ne cherche pas à savoir si c'est vrai, une éducation qu'on a reçue, une religion qu'on a héritée, tout ça, et on se sécurise, on ne veut pas en changer. Et pourtant, il suffirait de cette petite secousse sismique, et puis tout s'écroule, et la pierre derrière laquelle vous vous cachez pourrait être celle qui vous écrase, en fait. Hein. Bon. Et ça, c'est vraiment des fausses sécurités. On ne se rend pas compte que derrière cette pierre, on ne goûte pas la vie, en fait. On manque de soleil, on manque de bon air, on manque de nature, de liberté, de mouvement. On est comme l'homme des cavernes qui habitait, vous savez, dans les fameuses habitations, les troglodytes. Là. Vous savez, leur habitation, ça ressemblait plus à des sépulcres qu'à une maison de campagne, hein, je peux vous dire. Mais voilà, on se met dans sa caverne et on bouge plus. Élie, un jour, va se retrouver dans une caverne aussi. Hein, il se réfugie et Jésus va lui, Dieu va lui dire, Dieu, 1 roi 19, vous connaissez cet épisode-là. Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Sors de ta caverne. Dieu ne veut pas qu'on reste dans une caverne abritée comme ça, des tempêtes de la vie. Il veut qu'on aille là où son esprit nous pousse, là où il veut qu'on agisse, et il faut sortir de nos cavernes. Osons quitter le domaine de nos fausses sécurités pour laisser la vie de l'esprit nous conduire où il veut, comme il veut. La deuxième pierre, en fait, hein, ça va être une certaine hypocrisie, comme des sépulcres blanchis. Hein, vous savez qu'on les sépulcres, on le passe à la chaux pour les désinfecter, en plus ça fait blanc, et à l'époque de Jésus, ben, les riches étaient enterrés dans leur jardin, souvent. Donc vous avez un décor, il y avait des arbres, les fleurs, les oiseaux qui chantent, hein, c'est magnifique. Et derrière la pierre blanche, ou sous la pierre blanche, en fait, il y a des cadavres en décomposition. Vous voyez ? Paradoxe. Et Jésus va traiter ces pharisiens hypocrites de sépulcres blanchis. Parce qu'en fait, en apparence, tout est beau, mais derrière, il y a de la pourriture. Donc il nous faut enlever cette pierre d'hypocrisie, de compromis, vous savez, pour laisser entrer la lumière de la vérité, de la sincérité. En fait. Il faut enlever tout ce qui peut être faux, des calculs, d'intérêt, vous savez. Il faut que l'esprit de vérité prenne toute la place dans nos cœurs. Et Jésus dira, malheur à celui par qui le scandale arrive. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres. Enlevons tout ce qui peut nous faire tomber et faire tomber les autres, c'est important. Et une troisième pierre, en fait, c'est la pierre de notre orgueil. Vous savez, à l'image de ces personnes qui font ériger sur leur dépouille, non pas une simple pierre tombale, mais vous savez, un monument à leur mémoire. C'est pour qu'on, hein, les générations futures les honorent. Pensez donc aux mausolées, aux pyramides, entre autres. Oui. Et à l'intérieur, bah, c'est quand même des cadavres. On les a embaumés, mais ça n'empêche que ce sont des cadavres. Hein, des cadavres qui n'ont pas de vie. Et ça représente vraiment le monument que l'homme veut ériger pour le culte et l'idolâtrie de soi-même. En fait. Parce que même mort, vous voyez, l'homme veut qu'on pense à lui et qu'on l'honore. Mais. Et on est une société où le culte du moi, ben, on fait tout pour effectivement l'élever au plus haut niveau, hein, à commencer par le culte du corps. Mais. Et c'est vrai que ben, les technologies permettent des gros progrès. Bon, l'homme veut être maître de son destin. Hein, on parle de l'homme bionique, mais tout. Enfin, l'homme veut se passer de Dieu. Et là, c'est là que l'homme est complètement à côté de la plaque, parce que dans son désir de faire progresser l'humanité, en fait, il sème des cadavres tout autour de lui. Et je dirais que le monde est de plus en plus en ténébré, parce que l'homme n'a pas compris que sans Dieu, sans Jésus, il ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Et donc, il a même comparé. Il a parlé à ses disciples, il a dit, vous êtes les branches, les sarments, moi je suis le cep. Il faut que ma vie soit en vous si vous voulez porter du fruit. Et ça, il faut comprendre, parce qu'un membre mal irrigué, par un caillou ou une sténose, ou des plaques d'athérome, vous savez, ça engendre une gangrène et souvent font amputer. Un cœur mal irrigué, ça donne un gène de poitrine et ça peut donner un infarctus. Eh oui. Eh bien, de la même façon, Dieu, il veut que rien empêche sa circulation en nous, la circulation de sa vie. Et il veut déverser en nous sa vie en abondance. Donc, et si vous voulez remplir un récipient, eh bien, enlevez le bouchon. Logique. Enlevez de vos cœurs tout ce qui fait bougeon, l'incrédulité, on vient de le voir, l'hypocrisie, l'égoïsme, bon, tout ça, faut enlever, hein, ouvrir son cœur, et Dieu veut le remplir. Et en plénitude, il veut que ça déborde. Bon. N'oubliez pas, on est des vases d'honneur, hein, et Dieu veut que dans ces vases d'honneur, il veut nous remplir de la vie de son esprit. Donc ouvrons grand nos cœurs, recevons sa paix, sa joie, son amour, hein, du zèle à servir, et libérons la puissance de Dieu, libérons la vie du Saint-Esprit. C'est bon ? Deuxième détail, rassurez-vous, hein, je serai malin, n'a pas tout fini. Des fois que le mot de patience, hein, aurait des limites. Les bandelettes étaient à terre. Deuxième détail, vous savez qu'on entourait les corps de bandelettes, rappelez-vous les momies égyptiennes à l'époque. Quand Jésus fait sortir Lazare du tombeau, il sort entouré de bandelettes. Et Jésus va dire, déliez-le. On ne peut pas expérimenter la vie que Dieu veut nous donner, une vie de grâce et de liberté, si on est ficelé dans des bandelettes. Et que représentent ces bandelettes ? Bon, je vous en ai énuméré quelques-unes. Ça peut être le cadre rigide d'une religion qui est faite de formalisme ou de légalisme. Ça peut être un sentiment de culpabilité, d'échec, une condamnation qui empêche d'aller de l'avant. Ça peut être le jugement des autres. On s'imagine que vous ne changerez pas. Vous êtes comme ça, vous êtes catalogué. Ça peut être un sentiment de crainte ou de timidité. On n'ose pas. On a peur, donc on est paralysé. Ça peut être un manque de pardon lié à une faute passée. Hein, une perte d'espoir. Et bien d'autres choses. Vous voyez ? Et ça, pour moi, ce sont des bandelettes. On est comme Lazare, là. On est vivant, mais si on enlève pas les bandelettes, on ne va pas faire grand-chose. Hein. Bon. Donc, pour expérimenter la vie de ressuscité, il faut deux choses. D'abord, laisser Dieu nous délier, c'est-à-dire recevoir son pardon, sa grâce qui efface nos péchés, bien sûr, qui fait de nous des créatures nouvelles. 1 Jean 1, 9, je vous rappelle. Dieu, enfin, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour donc supprimer toute iniquité. Et donc, pour savoir que chaque fois qu'un péché nous ficelle en quelque sorte, allons à Dieu, confessons ce péché et Dieu va pardonner et va nous libérer. Bon. Donc, ça, c'est pour nous. Mais ensuite, nous, par rapport aux autres, sachons libérer les autres. Parce qu'on a autour de nous des gens qui sont ficelés aussi dans des tas de bandelettes. Eh bien, communiquons-leur cette vie, cette grâce de Dieu. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et pardonner vous sera pardonné. Donc, enlevons la pierre qu'on peut avoir dans le cœur. La jetons surtout pas l'autre. Il ne s'agit pas de lapider l'autre avec la pierre qu'on va prendre dans notre cœur. Aussi, je dirais, enlevons la poutre de notre œil avant d'enlever la paille dans l'œil du voisin. Et surtout, donc, nous avons la responsabilité. Et ça, je m'adresse à chacun de nous. C'est notre responsabilité de libérer autour de nous cette puissance de résurrection qui doit être en nous. Ça, c'est important. C'est important. Parce qu'on va trouver autour de nous des gens qui, finalement, vous savez, c'est des moribonds. Spirituellement, ils sont morts, les gens. Ils sont morts. Ils ont pas cet espoir en plus d'une vie après. Beaucoup ont ce cœur avec des choses qui pourrissent en eux, vraiment. Et nous, on a cette responsabilité. Je dirais de crier à la vie pour faire apparaître la vie. Crier à la vie pour faire apparaître la vie. Là, on a parlé de la vision d'Ézéchiel. Dieu lui a demandé, prophétise sur ses eaux, parle à l'esprit, l'esprit va rentrer en eux et vont revivre. Et c'est ce qui s'est passé. On a parlé de Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus, il a dit, sors. Et Lazare est sorti. Eh bien, je vous redis que c'est le même esprit qui a rendu les eaux dans Ézéchiel, la vie aux eaux dans Ézéchiel, c'est le même esprit qui a fait sortir Lazare de la tombe, le même esprit qui a fait sortir Jésus du tombeau, c'est le même esprit qui vit en nous. Vous êtes d'accord ? Eh bien oui, mais alors, si l'esprit est en nous, eh bien, parlons à l'esprit pour qu'il agisse autour de nous. Donc c'est à nous de crier. Maladie, sors au nom de Jésus. Tristesse, tu sors au nom de Jésus. Découragement, tu sors au nom de Jésus. Incrédulité, tu sors en Jésus. On a autorité, prenons autorité et demandons à l'Esprit d'agir. Ben oui, sinon, ben Jésus, il est vivant, il est là, il agit. Ça paraît tellement vrai, mais des fois, on a besoin de se le redire. Parce qu'en fait, on est dépassé par le quotidien et on ne passe même pas à l'acte alors qu'il y a moyen là, de faire agir l'Esprit. Donc délions toutes ces bandelettes que les gens peuvent avoir autour d'eux. Déversons ces fleuves d'eau vive, libérons la vie autour de nous. Et c'est vrai que il est dit que nos prières et nos louanges s'élèvent vers le trône de Dieu comme un parfum agréable. C'est-à-dire qu'il doit sortir de nous vraiment la bonne odeur, l'odeur de la vie. Dieu est un Dieu de vie et il nous appelle à sa vie, celle qu'il a manifestée en Jésus ressuscité. Donc sachons dire non maintenant à tout ce qui est stérile et ne donne pas la vie. Non à tout ce qui étouffe et détruit la vie. À tout ce qui ne nourrit pas, tout ce qui dessèche, tout ce qui transforme notre cœur en sépulcre, vous voyez, ou en poubelle nauséabonde. On met le couvercle là, on dit non, 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 non. Pas ça. Non. Mais oui à tout ce qui va, en fait, libérer. Oui au pardon, oui à la grâce de Dieu, oui à la puissance de résurrection, oui à l'efficacité de la parole de Dieu, oui à tout ce qui plaît à Dieu. Et là, il faut libérer, oui, de notre cœur. Et maintenant, pour terminer, je voudrais vous raconter l'histoire de, qui est arrivée à un vieux cimetière de Hanovre, une comtesse allemande qui était athée, qui s'est fait enterrer. Et dans ses dernières volontés, pour bien manifester son athéisme et sa non-croyance en une résurrection, elle avait demandé qu'on mette une pierre de granit qui est scellée avec une dalle de béton, avec des crochets de métalliques, quelque chose de vraiment qu'on ne pouvait pas dissocier. Et elle avait fait mettre une inscription, donc « Défense d'ouvrir, cette tombe est scellée pour l'éternité ». Pour elle, c'était sûr, elle était dedans, personne ne pourrait la faire sortir, elle voulait que tout le monde le sache. Et un jour, eh bien, une petite graine de peuplier est venue s'éloger dans l'interstice entre la dalle de granit et la dalle de béton. L'humidité et la poussière ont fait que la graine a germé, ça s'est enraciné. Et au fil des années, eh bien, il y a un arbuste qui est sorti, et l'arbre est devenu très gros. Et un beau jour, eh bien, la dalle de granit a éclaté, et donc et la dalle de béton également, et tout ce qui maintenait les ferrures n'ont servi à rien. Une petite graine avait suffi, en fait, pour que le tombeau de cette riche comtesse, eh bien, qu'elle croyait scellée à tout jamais, éclate. Et le tombeau était ouvert. Une parole va suffire pour tirer de la poussière un jour cette comtesse, d'ailleurs, pour que son corps ressuscite, pour le jugement final. Bon. Et sachez qu'aucun cœur ne sera jamais assez dur, ni assez fermé, pour que la parole de Dieu, qui aussi est une graine, vienne faire éclater tout ce qui peut y avoir d'incrédulité, de résistance, tout ce qui peut s'opposer. La parole de Dieu est une parole vivante, efficace, et un jour, avec bon, les circonstances, ça peut s'enraciner, ça peut faire éclater. Donc c'est important ça. Et bien que cette parole elle puisse déjà, qu'elle soit en nous, qu'on puisse la semer autour de nous, et en sachant qu'elle est puissance de vie et de résurrection, et qu'elle peut gagner vraiment à Christ les cœurs de toute une ville, elle peut déplacer des montagnes, c'est une parole qui a vraiment une grande efficacité. Donc je crois qu'en ce jour de Pâques, je veux tous vous inviter vraiment. Être conscient qu'on a une puissance qui vient de Dieu, bien sûr, c'est pas la nôtre, en nous, qu'on doit libérer. C'est vraiment le jour de se le rappeler. Et que, vous savez, la parole de Dieu, elle nous parle de notre propre résurrection. Vous savez. Romains 8, 11, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous rendra aussi la vie à vos corps mortels. À moins que Jésus revienne avant, bien sûr, mais on sait que si Jésus revient avant. Vous savez ce qu'il met en 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il est mis, les morts en Christ ressusciteront premièrement, enfin, c'est-à-dire au son de la trompette, donc à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressuscitent premièrement, et nous, eh bien nous, qu'est-ce qu'on sera tous enlevés à la rencontre, dans les airs, donc à la rencontre du Seigneur. Et c'est là que je termine sur cette diapo, là, qui nous montre, voyez, on parle, bon, c'est une image. Bon. Mais n'oublions pas que on est appelé, nous aussi, un jour, eh bien, à être en présence de Jésus, en présence de Dieu, en présence de notre bien-aimé. Et aussi, je termine en vous citant Acte 17, au verset 30. C'est parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La résurrection de Jésus est une preuve certaine qu'il y aura un jugement. et que eh bien, il y aura une vie éternelle avec Dieu ou sans Dieu. Et c'est là que, eh bien, on est quand même impliqué, d'une part nous à faire le bon choix, mais aussi à aider ceux qui sont autour de nous à faire le bon choix. Et pour nous qui croyons, eh bien, ça sera merveilleux, parce qu'en fait, on sera avec Dieu, on sera avec Jésus. Il est même dit qu'on sera semblable à lui, parce qu'on le verra tel qu'il est. Ça, c'est dans 1 Jean 3:2. Nous nous verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Eh bien, voilà une perspective quand même qui est encourageante. Et qu'en ce jour de Pâques, eh bien, que notre cœur soit rempli de cette conviction. Jésus vivant. J'ai cet esprit qui l'a ressuscité, il vit en moi. Et la parole de Dieu, c'est cette semence qui a une efficacité. Je dois la semer autour de moi. Et les gens doivent voir en moi cette vie de Jésus. Si Jésus n'est pas vu vivant en moi, attention, je ne donne pas mon témoignage de la résurrection. Bon, on le sait. Mais des fois, c'est bon de se le redire. Et vite à prier quelques instants. Seigneur, merci bien d'avoir envoyé Jésus, bien nous délivrer justement de notre situation dans laquelle nous étions bien perdus à tout jamais. Seigneur, merci parce que Jésus a accepté de souffrir pour nous, Jésus a accepté de mourir, Seigneur, on l'a encore rappelé. En prenant cette sainte scène, on ne veut pas oublier, Seigneur, le prix que Jésus a payé pour nous, Seigneur. Mais on sait aussi que la mort n'a pas été la fin de tout, que Jésus est sorti du tombeau. Et en ce jour, notamment, Seigneur, on veut le rappeler, d'une manière toute particulière, Seigneur. Jésus est sorti du tombeau. Jésus a vaincu la mort. Jésus est vivant. Il est assis auprès de toi dans la gloire, Seigneur. Jésus intercède pour nous. C'est en son nom qu'on peut te prier, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, eh bien, on veut te demander, eh bien, pardonne déjà, Seigneur, cette attitude qui fait que souvent, ce qui devrait être le plus grand miracle, Seigneur, qui devrait nous époustoufler, qui devrait vraiment nous transporter, eh bien, parfois, on arrive à le rendre comme quelque chose de banal, d'évident, Seigneur. Comme si c'était presque normal. Et pourtant, Seigneur, c'est loin d'être normal. Cette résurrection, Seigneur, nous propulse vraiment dans cette vision qui est la tienne, Seigneur, une vision d'éternité. Cette résurrection, Seigneur, eh bien, elle nous communique cette plénitude de vie, Seigneur, qui était celle de Jésus, sorti du tombeau. Seigneur, ce matin, notre prière, c'est vraiment que tu nous aides à la vivre cette vie, que tu nous aides à enlever tout ce qui empêche, Seigneur, cette vie de se manifester. Seigneur, qu'on puisse enlever cette pierre et qu'on fasse ce qu'on peut, mais c'est toi qui vas l'enlever, Seigneur. Nous, déjà qu'on veuille l'enlever, mais c'est toi qui vas nous aider, Seigneur. Enlever tout ce qui bouche notre cœur, notamment cette pierre du péché, Seigneur. Et aide-nous à pouvoir exhaler cette bonne odeur de ta présence en nous, Seigneur. Enlève aussi tout ce qui peut nous ficeler, Seigneur, toutes ces bandelettes de préjugés, Seigneur, toutes ces bandelettes de tradition, Seigneur, tout ce qui nous ficelle, Seigneur, qui empêche la spontanéité de la vie de ton esprit en nous, Seigneur. On te prie vraiment, eh bien, libère-nous de tout cela, Seigneur, et aide-nous à libérer les autres aussi, en ton nom, par cette puissance que tu nous donnes, cette autorité que tu nous donnes, Seigneur. C'est notre désir ce matin, Seigneur, d'être les témoins de ta résurrection, Seigneur, qu'on puisse proclamer avec zèle, avec enthousiasme, cette parole qui libère. Ta parole qui est source de vie. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Je vous invite à rester quelques instants encore pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans le cœur de chacun. Qu'on puisse vraiment ouvrir grand notre cœur, que le Saint-Esprit puisse agir maintenant, parce qu'il est présent, il nous connaît. Il sait les coins, les recoins où il y a quelque chose à faire. Laissons-le vraiment agir en nous. Et pour faire cette œuvre de libération, cette œuvre de transformation, que nous ayons vraiment un cœur qui plaise à Dieu dans tous les domaines. Et surtout que personne ce matin, que personne ne quitte ce lieu sans être en paix avec Dieu. Sans avoir la vie de Dieu en lui. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a rassemblés, Dieu nous a déjà parlé, Dieu a un projet pour nous. Et si quelqu'un ce matin n'a pas cette paix avec Dieu, n'est pas parfaitement dans cette relation que Dieu voudrait avec lui, eh bien, vraiment, je ne peux que l'exhorter à ouvrir son cœur à Dieu, à prier à Dieu. Ça se passe entre lui et Dieu et Jésus, hein, et d'inviter Jésus à venir prendre la place. C'est quelque chose qui est personnel, hein, mais j'invite vraiment chacun à être en paix avec Dieu, en Jésus. Et parfois même, allons voir un frère, une sœur, peut-être, et prenons les conseils, hein, des uns des autres, mais ne soyons pas coupés, hein, de cette relation à Dieu, ne soyons pas coupés de notre relation avec les frères et sœurs non plus. Soyons tous en parfaite harmonie les uns avec les autres, c'est important. Si on veut que cette vie de Jésus, irrigue, hein, les membres que nous sommes, irrigue le corps que nous formons. Hein, l'Église, elle doit manifester, elle doit transpirer, elle doit faire éclater la vie de Jésus ressuscité. C'est vraiment, c'est la prière, c'est la seule prière qu'on peut faire en ce dimanche de Pâques. Seigneur, que ton Église manifeste la présence de Jésus vivant, Seigneur. Merci Seigneur, de bénir chacun de nous ce matin.